J'ai entendu que si tu veux entendre ta vraie voix, tu devais...
C'est un peu, il y a de l'écho, enfin, on dirait qu'on est dans une église, quand j'entends Inou, en tout cas.
Ah oui, Inou, cause un peu.
Si tu te bouches l'oreille gauche, tu entends
mille fois.
Ta vraie voix. Enfin, tu entends la voix que les autres gens entendent.
J'ai pas envie d'essayer. J'ai pas envie d'essayer.
Si tu bouges ton oreille gauche, pourquoi? Parce que ton oreille gauche, c'est genre la vraie oreille.
Je sais pas.
Je pense que l'effet écho, c'est parce que la chambre n'est pas.
Mais je pense que c'est la distorsion.
C'est le vide dans vos têtes, les gars.
Probablement.
2 heures de clash, c'est bienvenu à guichet fermé.
Ouais, gros. Ok, parfait.
Ok.
Et c'est reparti pour un nouvel épisode de À guichet fermé, le podcast belge des humoristes sans public. J'ai 4 micros, 3 humoristes en face de moi et 1 heure pour déconner. C'est parti! Nous voilà de retour avec un nouvel épisode thématique. On a le plaisir d'accueillir à nouveau 2 invités de qualité pour papoter d'un sujet en lien avec l'univers du stand-up belge. Et comme toujours, je suis accompagné par mon petit Gaston Lagaffe à moi. Celui qui se casse le cul pour me faire une surprise et m'offrir une bouteille d'alcool personnalisée et puis qui arrive à la péter dans le bus juste avant d'arriver chez moi. C'est le maladroit, mais tout de même bien intentionné, Rudy.
Oui, bonjour. Oui, c'était une terrible histoire. J'avais configuré toute une jolie petite bouteille et c'est la seule fois que j'ai pris le bus en 2-3 ans. J'ai cassé la bouteille dans le bus. Le chauffeur était persuadé que j'étais un gros plein mort qui buvait dans le bus. Mais il a été très sympathique. Mais du coup, si vous avez pris un bus tech dernièrement et que ça sentait l'alcool, c'était le mien.
Voilà.
Merci, Ravé. C'est à moi que revient le privilège de présenter nos invités du jour. L'an passé, elle sortait le tube Dit and That's Dit en featuring avec Sophie Wilmès. C'est une des seules artistes vraiment belges car elle joue dans les 2 langues nationales. D'ailleurs, elle adore dire la 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 la, c'est galaï. Elle est bilingue. Elle est dans le business, elle est bigleuse et elle est bienvenue partout. C'est la reine du cabaret Mademoiselle, la princesse guerrière au Comedy Club, notre bombe nucléaire à nous, Dena.
Bonjour.
Il est souvent considéré par ses pairs comme un des plus grands stand-uppers de sa génération, sauf qu'on ne sait jamais vraiment de quelle génération on parle. Il est fan de la série Dawson, de bougies parfumées. Il s'est retrouvé dans une escape room filmée avec PE, et ça, on ne peut que le plaindre. Il se lance maintenant à la conquête des salles avec son excellent premier spectacle tant attendu, True Story, c'est Inou JP.
Bonjour, bonsoir.
Et bien sûr, celui qui considère les débats comme du sport de haut niveau, l'avocat du diable dans les discussions de fin de soirée, le diplomate qui règle les conflits dans les loges, monsieur j'aurai le dernier mot en personne, Raphaël.
Ah, purée, comme
c'est une bonne
retenu.
Description.
Ouais, non, on a eu une discussion dernièrement où en effet, ma copine m'a dit que j'avais un défaut qui était que je devais toujours avoir le dernier mot. Fiancé, en effet. et du coup, tu vois comme Rudy prend les éléments de la réalité pour les dénoncer lors des podcasts, quoi. Je trouve ça vraiment... un peu déplacé.
C'est du réglage de compte.
Mais bon, voilà, comme vous le savez, mes chers invités, avant de commencer la discussion sur le thème du jour, vous allez vous prêter à un petit jeu d'introduction. Et pour aujourd'hui, on vous a demandé de dire quel sera le nom du prochain spectacle de l'autre et pourquoi. Alors les gars, ça raconte quoi?
Je savais pas que ça allait être déjà maintenant.
Ouais, hein.
Tu comptais l'écrire pendant
Bam,
le podcast.
Ok, d'accord.
Ouais, parce que je l'ai noté, attends.
Oui, moi aussi, j'ai noté des trucs. Okay.
Et en attendant, voici un petit reportage sur le
Omar. Ok, j'y vais, je peux
oui,
y aller.
Oui.
Ok, donc moi déjà je n'avais pas capté à la base que c'était le prochain spectacle. Donc,
t'avais capté quoi?
Non, mais que ce serait comment tu renommerais le spectacle de l'autre, tu vois? Et donc j'étais parti, donc j'ai déjà perdu
c'est
beaucoup de temps avec
ça.
Mais par contre, je suis très intéressé parce que ça se trouve il y a une bonne idée dedans.
Non, mais du coup le prochain, j'ai trouvé pour le prochain, j'ai une idée. C'est mais déjà tu vois parce que Dena, elle, en fait le truc que j'aime bien c'est qu'il y a un contraste entre quelque chose de très généreux, tu vois, quelque chose de très sensible, mais un côté empowerment, genre je suis là et on est là et voilà, une espèce de symbole de sa génération des femmes qui se mettent en place. Donc j'avais pensé juste tout sobrement à VP. Tu vois, en hommage à Kamala Harris.
VP. Mais ça fait un peu genre vice, tu vois, genre second, tu vois.
Oui, mais c'est genre on arrive, tu vois. Genre.
C'est pas encore notre temps, mais ça arrive.
C'est pas mal. Parce que c'est après Princesse Guerrière, ça devient un peu plus concret en étant VP, tu vois. Ouais,
exactement. Princesse Guerrière, c'était le potentiel. Puis boum, dans la réalité, tac.
Concrète.
VP.
Ouais.
Puis 3e spectacle, bon là.
Queen.
Dena.
Mégalo.
Dena Mégalo, ça sonne bien.
Dena Mégalo.
Dena Mégalo, c'est vrai.
sincère,
ça tirait super bien.
Authentique.
Je trouve ça un peu étrange que vous soyez tellement d'accord, mais ok.
Et l'autre idée, c'est...
Il en a plusieurs, en fait.
Ah, ouais, il a taffé.
C'est Aloe Vera. Alors, laissez-moi voir. Let me explain.
Parce qu'elle te burn. Eh, on peut deviner, quoi.
Dena a son spectacle Aloe Vera. Parce que, tu vois, l'Aloe Vera, c'est une plante, hein, comme on le sait, ouais. Qui a des vertus, antalgiques, qui guérissent, tu vois.
Et, wow. Un mot.
Quoi ?
Je viens d'apprendre un mot.
Exactement. Antalgique. Et donc je trouve que ben voilà, Dena, elle a cette énergie régénératrice, quoi, quelque chose qui te fait du bien, qui te donne un peu du baume au cœur, à l'intérieur d'une histoire qui peut être assez dure. Et je sais pas si tu sais, mais l'aloe vera est une plante désertique qui est un peu comme un petit cactus, tu vois, qui a des petites épines, etc. Donc dès extérieurement il y a quelque chose d'un petit peu râpeux, mais c'est la vérité, la douceur est à l'intérieur.
Et, mais je vais pleurer.
C'est super, c'est bien trouvé. Alors le VIP t'a commencé là, et puis l'aloe vera, vraiment, tu n'as surpris.
Et comme sur scène, je regrette de passer après une OJP. Pardon, par contre, je ne sais pas si tu avais encore une...
Non, c'est tout.
Alors, j'ai écrit que c'est difficile de trouver un bon titre mauvais, parce que Ino a trop du bon goût pour avoir un mauvais titre. Mais comme mauvais titre, j'avais en deuxième spectacle de True Story, j'avais Fake News. Parce que true, fake, et the story, news, voilà. Avec comme sous-titre, J'arrive. Voilà.
Ça, c'est pas mal.
Parce qu'il est ponctuel.
Voilà. Et en titre mauvais, encore toujours, j'avais Ino JPP. Voilà. Ino, j'en peux plus.
Évidemment.
Et sinon, j'avais plein de mauvais titres. Standing Innovation.
Bon, alors là, pour les amis français qui nous écoutent, on a...
On les a perdus.
Oui, non, mais déjà, c'est parce qu'il y a une série de magasins qui s'appelle les Galeries Inno, qui avant s'appelait l'Innovation. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ont plus de 60 ans, ils ont connu l'incendie de l'Innovation dans les années 60, qui était un des plus grands drames de Bruxelles avant l'effondrement du Hazel en 85.
Bah, c'était donc un jeu de mots sur Standing Ovation.
Attends, parce que si on peut revenir sur Inno JP qui vient de se switcher en homme culturel de radio,
historien.
Bonjour, oui, mais qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs?
Contactez-moi encore pour d'autres petits bouts d'histoire.
Mais sinon, comme vrai titre de deuxième spectacle, j'ai choisi Et alors. Parce que
avec l'accent.
Et alors là. Voilà. Parce que ça, Ino, il le dit plusieurs fois. Dans une soirée, tu peux l'entendre dire
dans
ça plusieurs fois.
Situations.
Et je trouve que ça colle à un deuxième spectacle parce que c'est la suite. Ouais. Et t'as envie de dire Et alors.
C'est très bon aussi.
Ouais. Il est vraiment bien.
Voilà, donc
après, je trouve ça marrant que tu te fous de la gueule de la ponctualité d'Ino alors qu'il arrivait avant toi aujourd'hui à cet enregistrement.
Ouais, mais comme tu sais, enfin voilà, tu vois, it takes one to know one.
Voilà, deuxième question.
Mais voilà, comme annoncé, aujourd'hui on va parler d'un thème bien particulier, on va parler des blessures et de l'humour. Mm-hmm. L'objectif du stand-up comedy, c'est de faire rire. Mais vous avez tous déjà sûrement vécu ce moment où un humoriste arrive à vous faire hurler de rire alors qu'il est en train de parler d'une expérience très douloureuse de la vie. Comment ces alchimistes de la scène arrivent-ils donc à transformer la douleur en joie, les larmes en rire et cette introduction en speech de motivation des alcooliques anonymes? Et pour parler de tout ça, on a des invités qui savent de quoi ils parlent, n'est-ce pas Rudy?
En effet, deux invités de marque, car déjà aujourd'hui avec nous, on a deux espoirs de la nouvelle génération de l'humour belge, hein, mais surtout deux artistes qui s'inspirent de leur histoire, y compris des moments plus difficiles pour faire rire sur scène. Dena, dont le spectacle parle entre autres de multiculturalité, d'intégration, de l'immigration de ses parents, et Ino, dont la vie n'est qu'un enchaînement de mes aventures rocambolesques, presque imposées par le destin. Je me permettrai pas bien sûr de rentrer dans les détails personnels, c'est à chacun décider de ce qu'il a envie de partager aujourd'hui. On est dans un safe space, bien sûr. Même si on le sait très bien autour de cette table, l'humour, c'est aussi une stratégie pour gérer la tension et les émotions. Et ces deux-là sont tout à fait capables de faire des vannes sur le chemin du retour d'un enterrement. Bref, des blessures à l'écriture.
Même
commence...
à l'aller.
C'est le moment touchant du podcast, Ino. Read the room.
Bref, des blessures à l'écriture. Comment se passe le raisonnement créatif?
Ben voilà, les gars, en fait, comme l'a expliqué Rudy, c'est une thématique qu'on voulait aborder avec vous, que aussi vous nous avez proposé, que c'était une thématique qui vous touchait. Et donc, ma première question, c'est pourquoi en fait vous vouliez en parler? Est-ce que c'est quelque chose qui a un rôle particulier dans votre processus d'écriture? Ok, pas. Très bien, c'était tout pour le podcast aujourd'hui.
Non, mais vas-y, parce que vouloir. Moi, j'ai répondu à une proposition qui me semblait intéressante, et parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me touche, parce que essentiellement, c'est l'impression que j'ai, c'est de faire ça en humour, principalement, tu vois, c'est vraiment comment j'avais une formule en anglais, parce que je suis un peu sur des applis de rencontre en ce moment,
Parlons de ça.
Have to know one to get another one.
To be do.
Et donc c'était l'idée, c'était de dire, de, tu vois, en anglais t'as cette expression qui dit when life gives you lemons, make lemonade, tu vois. Et donc je pense que c'est un peu ça, en tout cas dans mon expérience de l'humour, ce que j'essaye de faire, c'est ça, c'est de vraiment de take life bitterest lemon and transform it in a wordy lemonade.
Tu peux traduire pour les Français qui nous écoutent, parce
boire de la grenadine.
Au-delà du Luxembourg, c'est compliqué. Donc de vraiment, c'est comment, c'est quand la vie te donne un peu des choses un peu acides, de le transformer en quelque chose de sucré. Donc comme tu l'as dit un peu en disant alchimiste, c'est vraiment de transformer quelque chose qui te pèse en quelque chose de léger et que tu peux partager avec les gens. Et moi, c'est ça qui me fait aussi un peu rester dans l'humour. Parce que s'il y a quelque chose de j'ai un synonyme de guérison, quoi. Mais pas pour soi, je veux dire, tu guéris pas sur scène, mais il y a quelque chose de thérapeutique, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, de thérapeutique.
En racontant tes histoires, en racontant ce qui est arrivé, toi, ça te fait travailler ces histoires-là,
tu parles
pas de guérison sur scène, mais est-ce que toi, ça te permet d'y voir plus clair, ça te permet de
Ouais, ça te permet en tout cas de faire un effort, de faire l'effort de distance, de faire l'effort d'essayer de comprendre ce qui là-dedans peut être partagé de manière légère, et donc toi-même de le percevoir aussi avec un peu plus de légèreté. Et donc ça, c'est dans un deuxième temps. Dans un premier temps, il faut vraiment gérer ton trauma en perso, quoi, tu vois. Mais dans un second temps, c'est gay pour laisser les choses derrière soi, de pouvoir dire, tu vois, comme on dit souvent quand il t'arrive un truc dramatique, tu dis, ah, tu sais, un jour on en rigolera, tu vois. Et c'est ce jour-là où tu sais que c'est digéré, quoi. Et ben là, c'est ça. C'est, en gros, c'est tu fais assister les gens à ta digestion, quoi.
C'est intéressant parce qu'en effet, en anglais, parfois quand on fait une blague trop tôt, on dit too soon. Donc c'est vraiment le truc où on dit, voilà, il y a un processus de digestion dont on a besoin. Il y a d'abord le choc. Et puis, une fois qu'on a digéré ça, je crois qu'on a besoin de pouvoir aussi en rigoler. Enfin, je crois qu'il y a, surtout dans les choses difficiles de la vie qui restent avec nous. Avec lesquelles on va dire, genre moi, j'ai ça quand quelqu'un dans ma famille décède. J'ai toujours, en premier moment, où je suis triste. J'ai pas spécialement envie d'en rigoler. Et puis, j'ai un moment où j'ai besoin d'en rigoler. Parce que le truc qui vient après, qui, moi, je trouve horrible, c'est quand il y a, on va dire, cette pitié des gens. Pour moi, le fait de rigoler d'un truc qui, moi, m'a blessé, c'est une façon de dire « ça ne peut plus me blesser
». C'est ça.
Alors que si j'ai l'impression que les gens prennent toujours des pincettes en mode « oh, comment ça va ?» Tu vois, avec le petit regard comme ça de... Ou bien tu parles de quelque chose de ta vie, « ah, désolé, ça a dû être dur ». Allez, parfois, c'est bien. Mais il y a aussi des moments où je trouve ça limite insultant. Et j'ai besoin que quelqu'un me fasse une blague. Et le fait que, par exemple, un de mes frères me fasse une vanne sur le fait que ma grand-mère soit décédée, je comprends que c'est pas méchant, mais il sait, c'est un peu sa façon de montrer qu'il sait que je peux surmonter ce moment-là, quoi.
Ouais.
Je sais pas comment vous vivez ça quand on vous vanne sur un truc sensible ou quand vous vannez quelqu'un sur un truc sensible.
Je sais pas, je réfléchis.
Mais moi, il y a pas longtemps, justement, il y a un pote qui s'est fait détecter un cancer. Voilà, bon, on part bien.
C'est l'idée de parler
c'est,
de ça.
Oui, hein, oui, c'est ça, sûr. Mais finally, welcome to my comfort zone. Ok, donc super, mais voilà, j'ai un pote qui a un cancer et qui est plus jeune que moi, genre il a 34 ou un truc comme ça. Et donc, chimio et tout le bordel. Enfin voilà, et moi je l'ai appris via parce que c'est pas un pote proche, mais c'est un pote de pote, un pote de fête, etc. Donc voilà, que j'ai encore vu il y a quelques mois. Et donc, il y a pas longtemps, je lui ai envoyé un message pour dire, écoute, tu vois, parce que moi, j'ai perdu mes parents, toutes les deux d'un cancer, etc. Donc c'est quelque chose que je connais. Donc, il y a un côté où parfois, t'es un peu familiarisé avec une thématique, mais tu sais pas à quel point l'autre en est dans son processus pour le prendre avec légèreté ou pas, tu vois. Et donc il y a pas longtemps, je lui envoie un message pour dire, écoute, si t'as besoin de parler, si t'as besoin de, enfin, on s'appelle, etc. Dis-moi, moi je suis dispo, quoi, tu vois. Et puis alors je lui dis un peu mes disponibilités. Puis je lui dis, non, mais en fait, en même temps, c'est toi qui as le cancer, c'est toi qui décides, quoi. Et donc, je me dis, bon, il y a une hiérarchie quand même. Et voilà. Et
bah, rien que ça, réagi.
Il a bien réagi, tu vois. Et ça l'a fait rire. Parce qu'il m'a dit, sans ça, je sais pas si je t'aurais rappelé. Si c'était juste le truc de dire, appelle-moi n'importe quand, je suis dispo. Mais le fait que je fasse une petite blague pour dire, c'est toi qui as le cancer, c'est toi qui décides, ça, je sais pas, ça réhumanisait un peu le truc, parce que c'est vrai que quand t'as une maladie, souvent les gens commencent un peu à te traiter comme un extraterrestre, et comme tu vois, à la fois ils ont envie d'être là, mais à la fois ça leur fait peur, et donc donc plus personne te parle vraiment normalement, tu vois, et donc voilà. Mais encore une fois, c'est toujours très délicat parce qu'il y a le côté un peu too soon qu'il faut toujours surveiller, quoi. Mais donc pour ça, l'humour est vraiment un espèce de lubrifiant du malaise, quoi.
Moi, ce que j'aime bien dans les blessures entre guillemets, c'est que je me rends compte que finalement, ce sont entre autres les blessures qui font que je suis qui je suis. Et donc, étant donné que je parle de moi sur scène. Ben, je ne peux pas passer à côté des blessures, sinon je parle de choses superficielles et j'ai l'impression que on a déjà fait le tour de sujets un peu plus superficiels dans l'humour. Donc, quitte à parler de quelque chose de vrai, et puis avec le temps, j'ai vraiment remarqué que quand je parle de quelque chose de vrai, ben, c'est ce qui est le plus drôle, c'est ce qui est le plus percutant pour le public parce qu'ils sentent qu'il y a du vrai derrière. Et puis de, comme disait Inno, de parler de douleurs, de blessures, de d'événements presque traumatisantes, ben, ça relativise et, je sais pas, ça apporte un regard un peu plus doux sur ce qui s'est passé.
Ça enlève aussi un peu le côté tabou. Non, c'est aussi une façon de s'approprier. Je veux dire, il y a pas mal d'humoristes qui ont eu des expériences avec des gens qui leur ont fait des remarques racistes et qui transforment ça en sketch. Et là, je crois que c'est aussi une façon de retourner cette situation et de se dire... Enfin, j'ai pas vécu ça, donc je peux pas vraiment dire. Hein, mais j'ai l'impression que c'est aussi une façon de s'approprier cette situation et de dire, en fait, je suis sorti vainqueur de cette altercation parce que maintenant, je suis en train de faire rire des centaines de personnes en racontant la connerie que cette personne m'a dit.
Pour moi, c'est plus au niveau énergétique, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des choses... Bon, le racisme, on le vit encore tous les jours et on peut encore être confronté à des choses méchantes. Et en fait, ce que je fais souvent, c'est que bah, quand je raconte une situation où il y avait du racisme ou de la discrimination, bah, cette émotion vive qui se réveille en moi, qui est un peu agressive dans les émotions, qui est un peu brutale, bah, je la transforme dans mon esprit, dans mon corps, en énergie scénique, en fait. En de l'énergie, genre, on me dit souvent, oui, sur scène, t'as de l'énergie, tu vois, tu bouges partout, tu sautes partout. Et c'est ça, c'est ce carburant-là, c'est devenu un carburant qui me permet de... Ben en fait, je la transforme via un système interne qui fait que ce qui ressort, c'est de l'énergie positive. Mais c'est un peu cliché peut-être de dire énergie positive, mais c'est une énergie dynamique, tu vois. L'énergie statique que pourrait apporter une blessure devient une énergie dynamique qui va dans le partage, qui va dans le rire, qui va dans le... Et ça s'évacue comme ça vers l'univers.
Et tu ressens, donc... toi, que tu extériorises. Est-ce que tu sens que quelque chose qui pourrait être... tu as reçu quelque chose de méchant qui vient te faire du mal, qui te reste quelque part dans la tête quand tu y repenses et tout. Est-ce que ça te guérit de ce sentiment-là quand tu as pu en rire, le ridiculiser peut-être devant les gens? Est-ce que toi, tu te sens mieux?
Ben, le plus grand exemple dans ma vie, c'était que je me suis fait renvoyer Stan TPD. Hein, donc, immédiatement, j'ai dû quitter les bureaux de là où je travaillais. Stan TPD, ça se dit pas?
Ouais, bah, j'ai jamais entendu cette expression, mais je crois que ça veut dire là directement, quoi. Okay. Manu Militari.
C'était juste pour dire le mot PD. Et du coup, je me suis fait renvoyer comme une merde. Et le soir même, je devais jouer au MIB. Et j'appelle et je dis voilà, qu'est-ce que je fais? Et ils m'ont dit, ah non, mais viens, ça va te faire du bien. Mais moi, j'étais en pleurs. Rudy le sait, je l'ai appelé ce jour-là. J'étais en pleurs, j'étais au bout de ma vie. Et donc, il y avait Sophia Sicco, je pense. Sophia Sicco et Bénédicte Philippon dans les loges. Et donc, j'arrive en pleurs, elles me parlent, elles me font « Ah, mais c'est pas grave, utilise cette énergie sur scène. » Mais moi, je savais même pas ce que ça voulait dire à ce moment-là. Et donc, je monte sur scène, j'étais au bout de ma vie. Hein. Je sais pas, tu t'es fait virer, donc tu te sens pas bien. Et donc, je monte sur scène et en fait, je suis complètement dissociée de mon sketch, de moi-même, de tout. Donc, je laisse faire. Et au moment où, dans mon sketch, je dis « Est-ce que vous êtes chaud pour les réunions ?» Bah, vu que j'allais, entre guillemets, plus jamais vivre ça, ces phrases-là, mais je les ai hurlées, genre, c'était un cri, tu vois. Mais en fait, ça, les gens étaient... Je sais pas, ils rigolaient, mais j'avais jamais vu le public rigoler aussi fort à cette partie-là du sketch. Et en fait, ce jour-là, ce sketch-là, bah, il m'a ouvert plein de portes. Plein de portes, parce que je sais que c'est grâce à ce moment-là où il y avait des gens importants dans la salle qui a fait que j'ai fait ensuite le Palais 12, que j'ai fait Chic, que j'ai fait Check. Et c'est incroyable. Et à chaque fois que je vis un truc difficile dans ma vie, je me dis presque « Yes, je vais pouvoir l'utiliser comme carburant pour, boum, tu vois, pour me lâcher. » Parce que je suis tellement fâchée ou triste que ben, je ne peux... Soit je pète un câble et je deviens dépressif, soit je l'utilise en joie.
C'est intéressant.
Combien de... Le podcast a commencé depuis combien de temps?
Vingtaine de minutes.
Vingtaine de minutes. 20 minutes pour mentionner le Palais 12, c'est long d'être.
Franchement, t'as pas. C'est vrai, je le dis au moins une fois par jour.
Ah, c'est beau, je la voyais pas venir. Mais du coup, en effet, je trouve ça particulier parce qu'il y a aussi des humoristes qui vont pas aborder ces questions-là. Et les humoristes qui sont aussi très bons, qui font rire, mais qui vont pas spécialement parler de leurs blessures. Et après, il y en a certains qui parlent de leurs blessures et ça fait vraiment beaucoup rire. Mais est-ce que l'un est mieux que l'autre? Est-ce que j'ai l'impression que ça répond, c'est un style d'humour différent. Il y a de l'humour où moi j'ai cité un spectacle et je me dis, ah, ça c'est intelligent. Ah, là, il a fait un truc avec sa tête qui était vraiment incroyable. Et puis, mais tu as vraiment un raisonnement, tu as plusieurs mots l'un après l'autre, des trucs comme ça. Je me dis, voilà, ça c'est vraiment d'un point de vue de la réflexion, c'est vraiment intéressant. Et puis, il y a d'autres humoristes qui vont juste me toucher et je vais rigoler. Et en même temps, ça va créer une sorte d'immense empathie entre moi et la personne. Ou limite aussi, c'est quelque chose que moi, j'ai ressenti aussi dans ma vie. Et allez, je sais pas si vous avez aussi vu ça, des spectacles où on rigole juste parce que c'était marrant. Et vous dites, ah tiens, oui, c'était un bon spectacle. Et les spectacles qui vous ont touché. Mmh. Où là, vraiment, vous vous sentez ému. Mais
pour moi, tu n'es pas obligé de dissocier ça. Parce que si je fais un parallèle avec le cinéma, à partir du moment où nous, on est des techniciens de l'humour, on voit ce genre de choses-là, tu vas aller au cinéma, tu vas voir un film. Si tu es un petit peu connaissant, tu vas dire, ah, là, la réalisation technique est vraiment impressionnante parce qu'il a fait avec la couleur, avec les images et tout. Et là, le message qu'il porte est vraiment fort et vient me toucher et me rend émotionnel. Pour moi, tu ne dois pas forcément dissocier les choses. C'est deux chose complètement parallèle où tu vas pouvoir avoir quelqu'un qui va parler d'un truc émotif fort sur une technicalité de blague forte.
Oui, mais tu allez, Rudy, en plus toi tu as pas mal de blagues où tu vas pas spécialement allez, tu as certaines blagues où tu vas puiser dans tes blessures.
Ouf.
Il y en a une à laquelle je pense.
La lune de miel en Tanzanie, c'était dur. Hein.
Non, mais il y a d'autres blagues qui sont vraiment juste on fait des blagues sur les chiens et les chats et c'est pas spécialement et pourtant c'est des blagues qui marchent très bien.
Oui, après, ça dépend aussi, je pense, en tant que spectateur, où sont tes besoins, tu vois, par rapport à tes propres blessures aussi, parce qu'il y a des gens, moi, je sais qu'il y a une époque où je regardais des films, et si j'avais un certain problème, je sais pas, moi, genre, imagine, tu t'es fait virer de ton truc, eh ben...
Imagine, Dana, imagine.
Voilà. Ok.
Eh ben, t'auras envie de regarder un film où les gens se font virer de leur boulot, j'en sais rien, mais je sais pas s'il y a un film vraiment précis qui parle de ça, mais...
Oui, il y en a pas mal, hein.
Oui, il y a Up in the Air, c'est un film avec George Clooney où il prend l'avion à travers toute l'Amérique pour virer des gens physiquement en face d'eux.
Ah ouais.
Et en fait, après, son entreprise dit... Je vais vous expliquer tout le film. Il y a son entreprise qui dit, ah, on va faire des économies, donc on va faire ça à distance par vidéoconférence. Et en fait, les gens commencent à péter les câbles, ils sautent par la fenêtre et tout comme ça. C'est un film, c'est vraiment, mais c'est vraiment, vraiment un très beau
film. J'ai envie de Nespresso maintenant.
Et ben, du coup, voilà. Et en fait, parfois, tu peux justement n'être ouvert que à ce truc qui va te parler. Mmh. Ou parfois, ça peut être complètement le contraire, où justement, t'es touché par quelque chose et tu veux absolument pas entendre parler de ça et t'as besoin de divertissement pur et de penser à autre chose. Et que la personne qui va te faire le plus de bien dans ton malheur à ce moment-là, ça va être quelqu'un qui va te faire complètement penser à quelque chose de radicalement différent et qui va du coup pas parler de choses douloureuses. Donc, mais comme disait Rudy, ça se rejoint quelque part, ça se rejoint parce que à la fois, parce qu'au final, tout ce qu'on fait, c'est, ça reste du divertissement. Donc même le divertissement qui, entre guillemets, ne te touche pas, a quand même rempli sa mission. Qui est de te divertir, qui est de t'extraire de ta réalité pendant une heure ou deux et de te procurer des émotions positives.
Moi, ce qui m'étonne à chaque fois, c'est de voir qu'après mon spectacle, il y a des gens qui viennent me dire bah, « J'ai pas vécu la même chose, mais je comprends complètement. Moi, ma tante, elle est pas religieuse, elle est pas chic, elle est même pas iranienne. Moi, je suis italienne, mais je reconnais tellement ma tante dans votre tante. Et je sais pas, c'est machin. » Et c'est super drôle parce que plus je suis spécifique, plus je touche des gens qui ont des histoires complètement différentes, mais qui se retrouvent à mon avis, parce que c'est l'émotion qui est identique, même si c'est pas la même situation. Il y a cette citation qui dit « Si tu veux parler du monde, parle de ton village ». Eh ben, c'est vraiment ça, en fait.
Citation qui est de...
Dina Badani, 2021.
En tout cas, Marjane Satrapi a cité cette citation, qui n'est pas la sienne, mais qui va...
Mais je pense que ça rejoint ce que Inojipé disait. Il y a des gens qui sont, en fait, dans le besoin de regarder quelque chose et de recevoir quelque chose. Et en fait, qui vont... C'est pas tant toi qui leur donne quelque chose d'extrêmement précisément ce qu'eux ont besoin. C'est eux qui vont chercher dans ton texte, dans ton interprétation, ce qu'ils ont envie. On s'identifie aux personnages de films. Les gens qui écrivent les films ne pensent pas à Rudy Lejeune. Ils pensent à un mec hétéro aussi.
blanc.
Mission impossible, ça parle de toi. Hein,
c'est
impossible,
c'est moi. Non, mais tu vois, genre, tu, dans ton moment émotif, là où tu te retrouves, tu vas aller retrouver quelque chose de commun avec l'artiste, et c'est là qu'il y a une connexion qui se passe, et c'est là que tu vas pouvoir faire quelque chose de très bon. Mais alors, du coup, si tu vas voir un plateau, ou si tu vas voir un artiste seul, est-ce que tu pourrais passer à côté d'un bon moment juste parce que émotivement tu n'es pas sur le même besoin?
Attends, what?
Oui, j'ai vu que la question était un peu farfelue, mais je crois que je comprends ce que tu veux dire, c'est que tu ne sais pas créer cette émotion en juste 12 minutes en passant après un gars qui parle de chien et un autre gars qui va parler
non,
de
son... Non, c'est pas ça, c'est que je veux dire, est-ce que tu pourrais aller voir un spectacle qui est très très bon, mais dans lequel tu n'es pas émotivement réceptif ou tu ne te retrouves pas dans ce qui est donné? Et est-ce qu'en allant voir un plateau, justement, tu n'as pas peut-être plus de chance de trouver ce que tu as besoin à ce moment-là?
Ouais.
Bah, je pense que pour moi, ça, c'est... Oui, enfin, si j'arrive à connecter émotionnellement en plus avec la personne qui joue, bah, c'est sûr que je vais apprécier un petit peu plus qu'une personne qui parle d'un truc où je peux pas du tout m'y retrouver, sauf si c'est tellement bien fait que justement le côté absurde, le côté complètement à l'opposé de qui je suis m'intrigue, tu vois. Donc ça dépend, je pense, de la qualité des sketchs.
Moi, je crois qu'il y a une différence entre la situation que tu as vraiment vécue qui est la même et le sentiment sous-jacent. Comme tu dis, Dena, je crois qu'il y a des... Je crois que quand moi, j'écoute une histoire de racisme, voilà, ça m'est jamais arrivé, mais je me suis déjà senti le gars exclu, je me suis déjà senti tout le monde était dans un mood et moi pas du tout, et que j'étais rejeté. Et ça, en fait, peu importe ton ethnie, tu as quand même ressenti ça. Exactement. À un moment ou à un autre de ta vie. Et donc... je crois que, en effet, ça touche encore plus les gens qui ont une tante iranienne qui leur fait des remarques conservatrices. Mais je crois que à la base, ton sketch il fonctionne bien parce que on comprend tout ce que tu veux dire et ça touche quelque chose en nous, même si on n'a pas exactement vécu cette situation.
Oui, parce que tu te connectes à l'émotion et comme Dena disait là tantôt, bah, tu vois, elle utilise sa rage pour faire rire, tu vois, de la rage au rire.
Mais ça je trouve très intéressant.
Poêle, ça aurait pu,
spécial dédié. Une des questions que moi j'avais, c'est comment éviter, quand on essaie de transformer cette énergie de mauvaise expérience dans un sketch, de pas tomber dans l'agressivité, l'amertume, l'accusation. Parce que j'ai déjà vu des humoristes qui... j'ai déjà vu ce qu'on appelle en anglais les rage comics, qui vraiment sont fâchés sur scène et c'est à mourir de rire et c'est génial. Et puis j'ai déjà vu des gens qui étaient véritablement fâchés sur scène et ça mettait un malaise et les gens étaient mal à l'aise. Et donc comment est-ce que vous faites ça? Que vous traduisez une frustration, une blessure, quelque chose qui est quand même lourd à la base, sur scène, sans que ça devienne quelque chose de trop agressif ou méchant, ou ça crée une mauvaise ambiance.
Pour moi, c'est comme l'a dit Inou tout à l'heure, voir à quel point tu as assimilé, accepté la situation, et aussi, parce que tu peux avoir l'assimilé, mais aussi ton intention. Pourquoi tu racontes ça aux gens? Est-ce que c'est pour que tu t'en remettes encore plus? Ou est-ce que parce que t'as envie de vraiment dire, je sais pas moi, ou que t'es vraiment fâché? Enfin, c'est quoi l'intention? Parce que moi, je me dis, ok, ben, je veux partager mon histoire et montrer l'absurdité et la méchanceté d'une personne, mais tout en la rendant presque ridicule, en fait. Et pas dire, oh mon Dieu, regardez à quel point cette personne m'a fait mal. Ça sert à rien, parce que les gens vont avoir de l'empathie, mais c'est un show d'humour. Donc, il faut voir l'intention derrière. Donc, si l'intention derrière, c'est de quand même faire rire en apprenant une leçon de vie, pour exagérer un petit peu, ben... Je pense que tu ne tombes pas dans la catégorie de rage. C'est quoi que t'as dit? Rage comics.
C'est ça qui est bien particulier, c'est qu'il y a des rage comics qui sont vraiment fâchés sur scène. Donc je prends par exemple Bill Burr. Lui vraiment, il est véritablement fâché. Mais ça reste rigolo. Il y a aucun moment où je me dis ouf, c'est malaisant ou des trucs comme ça. Alors que j'ai déjà vu d'autres humoristes qui vraiment s'énervaient sur scène. J'étais en mode où là il est en train d'exprimer un truc où. Et ouais, je trouve que c'est intéressant l'intention. Ce que tu disais. C'est l'intention. C'est genre quand vous parlez des situations que vous avez vécues, c'est plutôt en rigolant, c'est en disant c'était pas grave, mais
tu l'utilises comme prémisse finalement.
Oui,
tu vois.
C'est un peu comme. Enfin, j'ai l'impression que vous n'avez pas une énorme haine envers la personne que vous décrivez. Vous avez. Vous ridiculisez cette personne, mais vous ne lui donnez pas... Je trouve que détester quelqu'un, ça, c'est donner une importance démesurée à quelqu'un. Et donc, si tu détestes quelqu'un qui t'a fait mal, c'est vraiment un peu la mettre à l'honneur. Et donc, ce que moi, je trouve que ce qui est un peu subtil, c'est comment réussir à se moquer de quelqu'un, mais sans la mettre au centre de la blague, en fait.
Ouais, ouais, c'est délicat, mais après, tu vois, Bill Burr, c'est parce que c'est vrai que je pensais à lui aussi, et un petit peu, mais je me disais, peut-être que je m'avance un peu trop, George Carlin, tu vois, dans une autre mesure.
J'ai regardé aujourd'hui un spectacle de George Carlin, et il s'énerve, mais à la fin, il termine toujours par, on dirait pas comme ça, mais en fait, j'aime bien les gens, tu vois, et il y a un côté où il dit, mais
tu vois qu'il est authentiquement énervé par les situations qu'il dénonce et que c'est quelque chose qu'il a vraiment besoin d'extérioriser et de dire mais enfin c'est pas possible. Après c'est hyper construit, c'est hyper écrit, c'est fort travaillé et tu vois c'est ça, c'est là aussi c'est qu'il faut du travail quoi. Et après bon, il y a un côté connais un peu tes faiblesses et tes forces parce qu'il y a des gens qui ont la force comme Bill Burr par exemple, qui a la force d'être authentiquement énervé et d'être dans son trip et que ce soit hilarant même si il ridiculise vraiment la personne, même si je sais qu'il y a un extrait, je sais même pas si c'est sur YouTube ou je sais plus quoi, où il était en train de faire un four un peu quelque part dans une université et puis il s'énerve tout d'un coup contre les gens en disant mais vous avez rien compris, mais vous êtes des débiles et ou alors c'est avec un éclair, je sais plus et finalement le truc dure 27 minutes où il insulte une seule personne dans la salle et tout le monde est hilar, tu vois, et vraiment c'est pas tendre du tout quoi, et normalement c'est le genre de truc qui peut tellement mal se passer. C'est le genre de truc où, en 27 secondes même, tu peux créer le plus grand malaise du monde, tu vois. Donc, après, le gars, c'est Bill Burr. Enfin, c'est Bill Burr, ça veut juste dire, c'est quelqu'un qui est aussi extrêmement bon en impro d'énervement, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément bons en impro d'énervement ou en impro, tu vois. Il y a différents types d'impro, tu vois. Des gens qui sont extrêmement bons en intro d'absurde, par exemple, tu vois, Yacine Bellous, ou, comment il s'appelle le gars qui fait de l'absurde en France là, le pote
Jeff Panaclock
et de non
Navo.
Non, qui est dans Bref aussi, le gars qui fait baisse là.
Kairon,
ouais, ah, voilà, tu vois. Mais qui va plus aller dans des trucs peut-être un peu plus absurdes ou plus gentils. Tu vois, qui va pas s'énerver vraiment contre quelqu'un. Donc voilà, ça c'est aussi connaître un peu tes forces. Moi, je sais que je pourrais pas, si je suis pris par une émotion authentique, tu vois, de tristesse ou de colère, transformer ça en une impro extraordinaire sur le moment. Tu vois, il faut qu'il y ait un minimum de digestion, il faut qu'il y ait un minimum de distance.
Et là, pour moi, ça reste l'intention, quoi. L'intention, quoi. Si ton but, c'est de vraiment, si un heckler a envie de lui dire de se taire, mais si tu t'énerves vraiment et que tu oublies que tu es dans un spectacle d'humour où les gens ont payé et qu'il y a encore 45 minutes, enfin, tu pètes l'ambiance, ben, c'est un peu ta propre faute, tu vois. Donc, je pense que tu dois avoir une espèce de dissociation dans ta tête où tu te rends compte, ok, je suis fâché, mais machin, il y a tout ça derrière, il y a l'organisation, les machins, les... voilà.
C'est ça. Et donc, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'être sur scène et d'à un moment plus contrôler vos émotions?
Sur scène, pas vraiment. Sur scène, je sais pas, il y a toujours un espèce de 19e sens qui fait que tu... Hold it together. Mais bon, ça m'est déjà arrivé de...
Très anglophone aujourd'hui, hein. Tu vois ce que je veux dire? Yes.
Non, je sais pas pourquoi j'ai passé trop de temps avec Camille. C'est vrai, ça va. Mais du coup, mais parfois, ou en sortant de scène, là, je m'effondre, entre guillemets, tu vois. Mais je pense que sur scène, je vais jamais le montrer parce que t'as, une espèce d'adrénaline qui te maintient artificiellement, tu vois, comme un ballon gonflé à l'hélium, mais qui fait que, tu vois, en sortant, tu peux vraiment, te dégonfler, quoi.
Ouais, moi je pense que je l'avais beaucoup plus au début. Maintenant, beaucoup moins, parce que comme dit Inno, il y a cette adrénaline et puis l'expérience aussi t'apprend à être dans la meilleure version de toi-même, quoi que soit la situation dans laquelle tu es en dehors de la scène. Mais voilà, je sais qu'une fois j'ai joué mon spectacle entier, alors que j'étais vraiment pas dans une bonne bulle. Et j'ai senti que ça s'est beaucoup moins bien passé. Mais les gens, vu que les gens ne connaissent pas la vraie version du spectacle quand je suis de vraie bonne humeur, bah, ils ont rien senti, mais moi je l'ai senti, et donc c'est pour moi que c'était pas chouette. Mais pour les gens, je pense que ça a été chouette, parce qu'il y a quand même un minimum de jeu d'acteur, donc ça passe. Mais bien évidemment, je ne me souhaite pas que ça soit comme ça à chaque fois, quoi.
Je suis super surpris que tu arrives à faire la distinction normale, mais genre que tu... Je trouve qu'en tant qu'humoriste, souvent, j'ai déjà vu le nombre d'humoristes que j'ai vu sortir de scène et dire « Ah, c'était nul à chier !» Et je suis là « Mais non, c'était très bien !» Et dit « Oui, mais comparé à la fois où j'avais tout pété au Black Sheep, je suis là « Mais... » Si tu compares toujours tes scènes à ton meilleur passage, ça va être horrible. Les gens qui t'ont découvert ce soir, ils ont adoré ce qu'ils ont découvert.
Mais aussi, genre vous deux, Raph et Rudy, vu que vous nous connaissez depuis 3-4 ans, bah vous allez le sentir. Vous allez me dire, c'était bien, les gens rient, ils étaient morts de rire, mais il y a un truc, il se passe un truc, t'es triste ou je sais pas. Et vous le sentez tout de suite parce que vous me connaissez. Mais les gens, voilà, les inconnus, ils le sauront pas, quoi.
C'est vrai que moi... C'est...
Non, je t'en prie.
He's gonna say something.
Sorry.
I apologize.
Non, c'est vrai que moi, ce qui m'est déjà arrivé, maintenant que j'y repense, c'est une fois où justement, c'était un plateau, ici en Belgique, et, enfin, je ne même pas la peine de préciser, mais c'est juste de dire que l'humoriste avant moi, juste avant moi, je pense en dernier, je crois, faisait des blagues dont il n'était pas vraiment au courant qu'elles étaient racistes, mais qui étaient un peu genre, voilà, c'était un blanc qui imitait un accent noir de manière.
Il ne s'est arrivé une fois, tu vas me pardonner un jour. Hein, allez.
Oui, mais écoute, tu m'as dit, je peux en parler un peu. Ok. Et donc, je vois ce truc-là et je trouve ça tellement dommage parce que c'était avant 2020, c'était avant Black Lives Matter et tout, mais il y avait un côté où j'étais moi déjà un peu dans une grosse réflexion par rapport à ça et je trouvais ça dommage et en fait ça m'a pris au dépourvu quoi, vraiment je m'attendais pas du tout à ça à ce moment-là et donc le gars il fait ça et moi je suis là et je passais juste après donc je pouvais même pas lui dire hey, gars écoute c'était pas, c'est pas... donc il fait ça il fait hey, machin et tout c'était des... j'ai tellement envie de te dire les blagues
aide-nous à situer juste l'ambiance, est-ce que le public réagit bien moins bien?
Oui, le public réagit bien.
Okay, donc ça plaît au public
et c'est une belle scène, tu vois, c'est une belle scène dans un bel endroit, il y a un chouette son, tu vois, le son c'est très important, on le sait bien, et donc tu sais que si tu fais bien ton truc ça normalement ça se passe super bien quoi, tu vois, c'était promis un beau moment. Et puis il fait ça et ça me casse vraiment intérieurement. Et du coup, et derrière il me présente en plus, tu vois, parce qu'en plus il avait choisi en plus ces blagues-là exprès pour dire hey, voilà, non, elle est noire.
Mais non.
Et voilà. Et puis il me dit eh ben non, il a JP. Et j'arrive et il veut me faire un check et déjà je nie un peu son check. Je suis là non, je suis pas d'accord avec ce qui vient de se passer. Donc je peux pas approuver physiquement, tu vois, la connivence avec tout ce qui vient d'être dit. Mm-hmm. Et puis j'arrive devant les gens et je suis là. Et j'ai senti mon énergie vraiment faire vous baisser de 80%. Et j'ai fait mes 10 minutes, mais en parlant comme ça, en disant tout mon texte comme ça, et en disant bonjour, salut, je m'appelle Lino, machin et tout. Et les gens rigolaient quand même.
Oh, oui, okay.
Tu vois, il y avait quand même des rires, mais qui étaient en réponse à mon énergie, parce que ça reste quand même un peu du ping-pong, tu vois, le stand-up, il y a un espèce, on croit que c'est un monologue, mais en fait, c'est un dialogue, tu vois. Les gens, ils répondent par des rires, par des silences, par donc. Et donc, comme je lançais la balle mollement, ils me la renvoyaient mollement. Et je savais, moi, que si je montais mon énergie un peu, que si je le faisais normalement, ça allait super bien se passer. Sauf que j'y arrivais pas, j'étais tellement encore dans ce truc de putain, j'en reviens pas qu'il a dit ça.
Mais du coup, t'étais fâché sur l'humoriste ou sur le public?
J'étais fâché sur l'humoriste. J'étais fâché sur l'humoriste et sur le fait qu'en 2019 ou je sais pas quand, on puisse encore faire des blagues comme ça en public et que ça passe et que ce soit normal et que personne ne voit le problème à part moi parce que je suis concerné. Et donc, du coup, tu vois, et donc voilà. Et donc, ouais, il y avait un petit côté de moi qui était aussi un peu fâché sur les gens de putain, mais vous avez ri. Et je pense pas que j'ai vraiment fait une allusion, mais je sais qu'il y avait aussi un peu de ça quoi, un peu de d'amertume là pour le coup, et justement ça a un peu ruiné le truc, pas complètement parce que le texte est bon.
Enfin, contre du talent, voilà.
Mais c'était vraiment froid quoi, tu vois, comme un bon plat mais que tu manges froid quoi, et que t'es là ouais, c'est bon, mais
est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que tu te punis ou est-ce que tu punis le public, est-ce qu'il y a une question de, tu vois?
Je sais
parce
pas.
Que tu te fais pas du bien, non, en ne en pas jouant bien entre guillemets, mais après je comprends le dialogue interne où tu te dis mais ces gens-là ils ont rigolé à ça, et mais enfin je sais pas si j'avais fait autrement que toi, hein, donc c'est vraiment une voilà c'est.
Moi
c'est une très bonne question si je peux dire, c'est juste que du coup Dena pourra remplacer Raph aux questions, c'est très très.
Non, et là c'est Raph qui parle comme ça et qui dit qu'il est traumatisé.
J'ai assisté à un spectacle, j'étais dans un spectacle d'improvisation où à un moment il y avait une improvisation où un des gars d'une des équipes fait une parodie assez raciste et ridicule de personnes arabes, et il y a ça rigole dans le public mais ça rigole normal on va dire. Et puis, il y a en face, dans l'autre équipe, un gars d'origine arabe qui vient sur scène et qui retourne la situation et qui a souligné le fait que c'était absurde ce qu'il était en train de faire, mais toujours en restant dans son personnage. Et là, il y a eu un rire immense dans la salle et les gens applaudissent. Et donc, je me demande si parfois, il n'y a pas moyen aussi cette possibilité de en fait complètement retourner la salle, qui s'est dit, on a rigolé à ça parce qu'on est dans une bonne ambiance et qu'on n'a pas envie de faire directement la mauvaise ambi. Mais quelqu'un qui vient... Enfin, c'est le mieux qu'on arrive à vraiment retourner la situation, pas juste en disant « Ah, c'était pas cool ce que t'as dit », mais en, oui. en ayant une réponse de répartie de dingue, le clashant, tout en restant de bonne humeur et rigoler, quoi.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, encore une fois, ça dépend de ton état à ce moment-là. Moi, c'est vrai que je pense que j'étais un peu sensible ce jour-là.
Mais etc. surpris aussi, peut-être,
et
non
surpris ouais. et tout, et que du coup, voilà, et peut-être que dans d'autres circonstances, j'aurais trouvé la phrase ou le mot.
L'exercice de pouvoir répondre à ce moment-là, de retourner la situation, c'est quand même, c'est pas si facile que ça.
Ah, c'est pas ce que je dis, hein, c'est pas ce que je dis.
De pouvoir monter sur scène et de dire, bah maintenant, je fais trois blagues sur les blancs et le racisme, et puis j'enchaîne sur mon propre sketch. Ouais. Il faut quand même être capable de le faire, quoi.
Et maintenant, je pense que je suis plus loin dans cette réflexion-là et que j'ai un peu des blagues aussi de stock par rapport à ça et que je
tu veux qu'on l'aligne juste avant toi sur un des prochains.
Non, et en plus,
c'est là que je trouve l'occasion intéressante de dire qu'il nous faudrait un Patreon pour que les gens payent de l'argent pour avoir les informations qu'ils n'ont pas ici. Ah, oui. Si on paye, vous pourriez savoir qui est, de qui on parle.
En fait, c'est une super bonne idée. Waouh.
De faire j'avoue, on donne 5 les noms, euros pour écouter Ino pour causer en anglais, ce serait bien. Quoi.
Non, mais faire des inside jokes et faire tous des trucs où les gens ont besoin d'avoir les refs, si vous voulez les refs. Mais...
ouais, c'est vrai.
C'est ça.
Mais après, en plus, on s'est, pour terminer, on s'est expliqué avec cet humoriste et je savais bien qu'il était pas mal intentionné. Et puis voilà, et puis il était hyper mal. Et puis,
souvent, ça arrive que c'est de l'ignorance.
Voilà,
que c'est
exactement.
Quelque chose qu'il n'avait pas forcément les clés de comprendre ce qu'il était en train de faire. Et voilà, Raph est vraiment désolé.
Parfois, c'est juste générationnel.
Parfois.
Mais après, l'excuse de il savait pas, c'est pas exprès, ok, mais on est en 2020-2021, donc il est l'heure d'ouvrir Google et de mettre est-ce que je peux lire ça à une personne comme ça. Donc,
oui, mais c'est vrai que je trouve que c'est plus intéressant d'avoir le dialogue avec la personne après pour vraiment lui expliquer, pas dans l'accusation, mais en expliquant. Par exemple, on a eu ça une fois, une scène où vraiment il y a de nouvelles personnes qui pouvaient se présenter et il y a un humoriste un peu plus âgé qui est venu. Et qui a fait un texte qui était complètement déplacé, vraiment, vraiment raciste. Et à la fin, on lui a pas dit « Casse-toi, tu viens plus jamais chez nous ». On a eu une discussion avec lui pour expliquer. D'ailleurs, ça s'était très mal passé. Donc, on lui a dit « Tu crois que c'est peut-être lié à la thématique que tu avais abordée, tout ça ?» Et on avait plutôt un dialogue avec lui pour en fait le convaincre. Et aussi partir du fait qu'un humoriste, à la base, il veut pas... Il n'est pas là pour appliquer le programme politique du Lams Blanc, tu vois. C'est, il est là pour faire rire et il a fait ça de façon maladroite. Mm-hmm. Et il faut peut-être lui expliquer que l'intention est bonne, mais qu'il doit trouver d'autres mots ou d'autres thèmes.
Mais dans ce sens-là, oui. Mais je trouve que...
C'est un excellent humoriste.
Oui, c'est vrai qu'il est très drôle, apparemment. Ouais. Mais dans ce sens où toi, tu vas expliquer à l'autre, ok, mais... Si, enfin, tu peux t'imaginer que Ino ou moi, si chaque personne qui a un doute sur est-ce que je peux faire cette blague-là sur, par exemple pour moi, sur des personnes LGBT, t'imagines le nombre de personnes qui me posent cette question tous les jours, tout le temps, enfin, même pas dans le monde de l'humour, mais juste est-ce que je peux te parler comme ça, est-ce que je dois, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire,
oui,
mais en mode si à chaque fois c'est
le
moi,
filtre de ce qui est politiquement
si moi,
correct,
moi je dois venir expliquer alors que tout est sur Google. Je sais que c'est plus chouette d'avoir la conversation face à face, mais c'est juste hyper fatigant parce que ça fait beaucoup de monde, beaucoup de gens, beaucoup de répétitions de choses qui sont sur Google. C'est pas juste un truc personnel, c'est des sujets assez globales, hein, les LGBT, les personnes d'origine étrangère et tout. Donc faire au moins une mini lecture avant de venir nous poser des questions peut-être plus.
Oui, mais dans ce cas de figure, quand un humoriste de 70 ans qui fait un passage,
oui,
tu sais
là,
qu'il va
oui,
pas, il va pas checker sur Google, quoi.
Non, dans cette direction-là, ok, dans l'autre direction, je trouve ça un petit peu.
Non,
il faut un petit peu des deux côtés, quoi.
Une autre question que j'avais pour vous, c'est est-ce que ça vous était arrivé de parler au public après le spectacle et le public vient vous parler spécifiquement d'une blessure que vous avez abordée sur scène ?
C'est-à-dire de chez eux, d'une blessure, d'un truc genre j'ai été touché et que tu parles de la mort de ta mère parce que j'ai perdu ma mère, ouais.
Ça fait beaucoup de mamans qui se mentent.
C'est quand même rare que quelqu'un ait vraiment vécu exactement la même situation. Mais je pense que en fait, ce qu'il y a surtout aussi d'un peu salvateur, etc., c'est plus le fait que de voir que toi, t'as été dans une situation vraiment merdique et qu'aujourd'hui, tu sois sur scène devant 50, 100, 300, 2000 personnes et que t'arrives à en faire des blagues, ça donne de l'espoir, quoi qu'il arrive, toute situation confondue, tu vois, c'est de se dire, ok, c'est possible d'arriver de l'autre côté quand t'as été en bas et tu vois, c'est possible de guérir de quoi que ce soit, entre guillemets, tu vois, et que du coup, c'est ça qui fait qu'après, tu vas dire, je sais pas, moi, ça m'a touché parce que j'ai vécu... Voilà, toute proportion gardée, mon hamster est mort, mais je, tu vois, pour pas dire voilà, mais ça m'a touché parce que voilà, j'ai vu qu'il y avait moyen qu'un jour ça ira mieux. Moi, je me souviens quand j'étais petit que je me faisais mal, tu vois, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on est petit, on tombe, on pleure,
on tombe beaucoup aussi.
On tombe beaucoup.
T'imagines en tant qu'adulte,
moi je pleure encore
autant,
aujourd'hui.
Ah oui, ouais.
Je pense que j'aurais plus mal en tombant aujourd'hui qu'en tombant quand j'avais 5 ans.
Oui, en plus,
c'est le début de la fin, Rudy. Hein. Tu sais ce qu'on dit à ton âge, tu tombes, t'as plus que 5 ans.
Moi, je suis à l'entrée de la tombe.
Non, mais c'est ça, et en plus.
C'est pas ça du tout.
Non, mais t'as mal plus longtemps en plus. C'est ça qui est bizarre, parce que t'es petit, tu pleures comme si c'était la fin de ta vie, alors que t'as mal 30 secondes. Nous, maintenant adultes, on tombe, on fait.
T'as une cuite de ta chute, quoi. Non ?
De quoi ?
Je dis, t'as une cuite de ta chute. Juste, tu dois t'en remettre, t'as besoin de 3 jours.
Ouais, ouais, ouais.
T'as le podcast des papis ici.
Ouais, je suis en gueule de bois hier, je suis tombé dans les escaliers.
Ah, voilà. Ouais, ouais. T'es en hangover de ta.
Où est-ce qu'on va
Que, en gros, je me souviens que je me disais tout le temps, ah, quand je serai grand, ça me fera pas pleurer. Tu vois, j'avais hâte à être grand pour ne plus avoir mal quand je tombe. Enfin, pour ne plus pleurer. C'est même pas plus, parce que on n'a pas vraiment mal, mais c'est plus pour ne plus avoir cette réaction débile de pleurer. Je me disais, mais les adultes, ils se cognent, ils pleurent pas. La journée, elle continue. Tu vois, moi, c'est toujours, et tu dois appeler quelqu'un et tout. Et voilà. Et donc, je me souviens, et pour ne plus avoir peur aussi, tu vois. La peur des monstres en dessous de ton lit ou dans l'armoire, tu savais qu'une fois adulte, en principe...
C'est vrai qu'en tant qu'adulte, on n'a plus aucune peur. Ça, c'est vraiment trop bien. Vraiment. Plus de frustration, d'anxiété.
Tu ne le sais pas quand tu es enfant.
Ouais.
C'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Ça, c'est une thématique intéressante. Et toi, Denaï, tu as déjà parlé avec quelqu'un. Moi, et je veux dire dans les deux sens. Hein, ça peut être quelqu'un qui a vécu la même chose ou juste quelqu'un qui est venu te parler d'un truc que tu as... Parce que, par exemple, une des questions que je me pose aussi, est-ce que quand on se met à nu sur scène avec une thématique, une blessure particulière, est-ce qu'on est prêt à en parler après, hors scène, qui est dans un tout à fait autre contexte, où on ne contrôle pas la discussion, tu vois, si ça se met... genre, par exemple, moi, je parle du fait que je suis roux sur scène. Si hors scène, quelqu'un vient et dit, ah, c'est vrai qu'en plus tu pues, je suis là. Mais c'est, enfin, je comprends la vanne et j'ai parlé de ça sur scène, mais c'est pas du tout la même chose.
Bah, écoute, je l'ai appris avec le temps parce que je parle beaucoup de ma mère et, j'explique son parcours et tout ça. Donc, toutes les personnes qui ont des parents réfugiés, souvent, c'est des personnes qui ont des parents réfugiés, viennent me dire, voilà, moi, je reconnais mes parents, je reconnais l'histoire de mes parents. Et en fait, on me pose énormément de questions par rapport à d'autres détails de la vie de ma mère que je n'ai pas mentionné sur scène. Et au début, j'étais là, mais en fait, non, c'est ma vie. Enfin, et maintenant, je me rends compte que, je comprends l'envie de savoir plus. Et donc, je sais ce que je peux. Enfin, maintenant, les questions sont souvent les mêmes. Et je réponds sans problème parce que je sais où sont mes propres limites. Mais sinon, par rapport à la réaction des gens par rapport au sujet que j'aborde, j'ai quand même beaucoup de personnes qui viennent me dire « Ah, c'est vrai que les Flamands, ils sont quand même tchic ou tchac. » Et même des Flamands eux-mêmes qui me disent « Mais c'est bien que t'en parles parce que c'est vrai, on est comme ça. » Donc, il y a un petit effet libérateur aussi par rapport à tous mes sujets LGBT. Plein de gens qui font partie de la communauté LGBT me disent « Ah, mais ça, c'est rafraîchissant d'en parler comme ça, parce que c'est différent des discours qui sont parfois un peu plus durs, plus sévères, parce qu'ils sont plus intenses dans le contenu, parce que le but est de vraiment faire comprendre quelque chose. Moi aussi, mais vu qu'il y a de l'humour, le message passe avec beaucoup plus de facilité, tu vois. Et donc, pour moi, c'est la réaction des gens, c'est « Merci d'apporter ce côté libérateur ». D'en parler ouvertement, sans stress, de quelque chose que nous aussi on a vécu et qui nous aussi nous a fait mal. Et maintenant, c'est comme si tu casses un tabou, quoi. Tu vois.
Et donc, surtout des bonnes interactions.
Toujours, ouais. Bien sûr, il y a des Flamands qui le prennent un peu mal, mais. Je suis toujours bien intentionnée. Donc, je pense qu'ils ne le prennent jamais vraiment, vraiment mal.
Ok. Mais parce que ça me faisait penser, en fait, à l'expérience que, Ino, toi, tu as eue, qu'on a eue à la scène qu'on a fait ensemble.
À Molenbeek.
Ah oui, c'était mais c'était pas encore à Molenbeek, c'était encore dans au nord de Bruxelles. On avait fait une scène et à la fin, je crois qu'une femme était venue te voir pour te faire donc, pas forcément méchamment,
mais
te dire qu'elle ne comprenait pas quoi.
C'est ça qui était rigolo, c'est que tu vois, moi je parle justement du fait que j'ai été adopté par un couple homosexuel et tout dans les années 80 et que je suis né au Rwanda mais que j'ai été adopté par deux femmes belges qui sont décédés aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais enfin bref.
Il va nous faire son spectacle.
Oui, c'est ça, j'allais dire.
Sous l'océan.
et du coup, à la fin de ce passage, en plus, c'est vrai que c'était dans un quartier un peu plus populaire et tout, je me disais, est-ce que je peux parler de ça et tout, mais bon, je me dis, bon, tant qu'à faire, on y va, parce que, tu vois, comme disait Denal tantôt, c'est vrai qu'en même temps, t'as des choses, tu te présentes aux gens et ça fait partie de toi. Donc en gros, ce serait mentir que de ne pas en parler, tu vois. Tu dis, eh ben, le stand-up, ça part de toi.
Ouais, parce que tout le monde, son premier sketch, c'est, voilà, je m'appelle, j'ai autant d'années, voici ma morphologie, et je viens de là, quoi.
Blague de casting, etc. Ouais. Et voilà. Et en gros, ben, moi, je viens de là, c'est-à-dire de toute cette histoire-là. Et donc, tu peux pas me comprendre en tant qu'être humain, en tant que personne, si tu n'es pas au courant de ça, tu vois, puisque le but, c'est quand même de connecter et qu'on se comprenne. Donc voilà. Et donc, ça, c'est mon histoire, je sais pas la changer. Et donc bref, et je fais ce truc à la fin, t'as une femme voilée qui vient me trouver et qui me dit mais c'est vrai, c'est vraiment ton histoire. C'est le gars qui fait son spectacle. C'est vraiment ton histoire. Et je dis ouais, c'est vraiment mon histoire. Et la dame avait l'air hyper concernée et puis elle me dit ah miskine, je vais plier pour toi. Et le truc c'est que je voyais dans ses yeux qu'elle était vraiment,
sincère.
Elle avait de la pitié pour ce qui m'était arrivé, mais pas pour le côté tes parents sont morts et tout, pour le côté le pauvre, il a grandi avec des parents homosexuels et tout, parce que tu vois c'est pas forcément quelque chose qui est culturellement accepté partout. Et donc elle s'est dit, ben lui il est innocent, mais en même temps, ben voilà, il est pas, tu vois, il a pas choisi cette situation là, et donc je vais lui apporter mon soutien. Mais en même temps, moi je vais bien, tu vois, donc j'avais envie, enfin je vais bien.
Parlons-en, Ido.
À ce niveau-là, ça va. Et du coup, je sentais bien qu'elle avait pas pitié pour les choses qui me faisaient vraiment souffrir, mais pour quelque chose dont je voyais bien qu'elle n'avait pas qu'elle n'avait pas conscience que c'était pas grave. Tu vois, qui pour elle était grave, alors que c'était pas grave, tu vois. Et donc, du coup, c'était marrant ce décalage-là. Mais en même temps, je pouvais pas lui en vouloir. Je me voyais pas lui en vouloir. Faire, mais madame, vous comprenez rien. Il faut pas.
Mais son intention était pas mauvaise. Je me rappelle que, pendant le spectacle, tout le monde rigolait et elle rigolait pas du tout. Mais elle était pas fâchée, quoi. Elle était, tu vois, juste qu'elle n'était pas dans un état pour rigoler, quoi.
Ouais. Et elle trouvait ça triste, je pense.
Mais moi, quand je me parle de trucs, enfin, quand je fais mon coming out sur scène, par rapport au public que j'ai devant moi, je sais que devant certains publics, ils vont arrêter de rigoler à partir d'un certain moment. Et donc, heureusement, vu que je l'ai vécu plusieurs fois, j'ai des blagues qui sont prêtes en disant, ah, je sais que madame ne rigole plus parce qu'elle avait envie que je marie son fils. Enfin, tu vois. Et voilà, ça amortit. Et, comme dit Ino, je sais pourquoi ils pensent comme ça. Voilà. L'Iran est un pays qui n'accepte pas les homosexuels. Donc, tous les autres pays qui ne sont pas hyper chauds pour ça, ben, je sais. Donc, je suis pas choquée. Je suis pas une personne qui est née, je sais pas moi, en Norvège où tout est OK niveau LGBT et qui se retrouve d'un coup dans un pays où.
Oui.
Donc, et de la discrimination par rapport aux personnes LGBT, il y a toujours. Mais ça fait toujours bizarre. Mais comme dit Ino, vu que ça fait partie de nous, ben, ne pas le dire, ben, ça serait juste mentir ou. Et puis, souvent, dans des publics, on va dire, plus compliqués, j'ai quand même toujours 4-5 personnes de ce public qui vient me dire merci, même en cachette presque, parce que c'est un ils me disent oui, moi je suis comme toi.
Oh super, trop bien, tu veux dire la mère à côté.
Et c'est super touchant parce que je me dis, enfin j'ai envie d'avoir une je me dis j'espère que pour ces gens, en me voyant sur scène, ils se disent bon, en fait qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois, et que ça s'arrête là. Mais après voilà, c'est des conversations beaucoup plus compliquées, mais voilà, je me dis que c'est peut-être une pierre en plus sur cette montagne à construire.
Mais après, je sais que, tu vois, Shirley Soignon, parce que ça m'avait pensé à ça quand t'as dit nous aussi, on est comme ça, parce qu'elle a un sketch où elle raconte que, voilà, elle était sortie avec une meuf.
Ah oui, je me souviens de ce sketch,
je sais plus dans quel village.
En Belgique.
En Belgique, ouais.
En Wallonie.
Ouais, en Wallonie, et puis qu'elle avait rencontré un gars, vieille personne. Qui vendait de la bœuf.
Dans une brocante.
Qui vendait de la bœuf. Ton histoire, elle va où, là?
Qui vendait de la bœuf. Oui, et que le gars lui avait dit, tu vois, lui avait fait comprendre qu'elle était avec sa copine, qu'elles étaient ensemble, et lui, il avait, ah ouais, nous aussi, on est comme ça.
Oui.
Donc lui-même n'assumait pas. Et tu vois, parce que tu parlais là tantôt du fait de l'amertume, de pas transmettre son amertume sur scène, et moi, par exemple, je pars en Côte d'Ivoire dans une semaine, plus ou moins.
Attends, il y a quelle heure? On fait le truc de.
Ah oui, oui. Ah oui. Ça fait 35 minutes.
T'as attendu 35 minutes avant.
Je l'ai là.
Sweet revenge.
Bien joué.
Well done. Oui.
Ouais, c'est le Palais 12, la Côte d'Ivoire.
Non, mais en plus, Ino était au Palais 12, mais il en parle jamais.
Non, j'en parle moins, ça dépend.
Il a quand même dit il y a 10 minutes qu'il a fait une scène devant 2000 personnes.
Ah oui, c'est vrai.
Il a en stumbling comme ça.
Mais du coup,
ça dépend de chaque podcast. J'étais dans un podcast qui parlait des Epic Fails il y a pas longtemps. J'ai parlé que du Palais 12. qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et donc, non, et je sais qu'en Côte d'Ivoire, justement, l'homosexualité et tout, c'est pas des sujets qui sont aussi acceptés. Enfin, c'est plutôt chi. Je pense que c'est même pas légal. Enfin, il y a tout un truc où donc je sais que je vais pas pouvoir raconter les choses telles quelles, mais là je suis préparé, je vais l'anticiper, je vais un petit peu voilà, mais en même temps je ne vais pas ne pas en parler, Tu vois, parce que je vais pas mentir, je vais pas me travestir même mentalement pour plaire à un public. Et je sais que je pense avoir entendu lui dire après, voilà, mais que Shirley, une fois, elle avait joué en Haïti, je crois.
Oui.
Et où justement, ça s'était pas bien passé parce qu'elle parlait, elle, de son homosexualité à elle. Et donc là, c'est encore plus délicat parce que moi, je, entre guillemets, j'ai un espèce de passing parce que c'est pas moi, ouais, tu vois. Ça. Donc je peux dire, oui, j'ai été élevé par des parents LGBT, mais moi, tu vois, comme cette dame qui m'a dit, ah ben, miskin, tu vois, qui m'a dit, le pauvre, il n'en peut rien, tu vois. Donc quelque part là ça passe encore plus, là où quand tu l'assumes dans ton identité propre, ben les gens ils sont directement confrontés, s'ils sont pas d'accord avec ça, ils vont pas être d'accord avec toi et avec ton existence. Et donc elle avait ressenti ça, et puis elle était en mode non mais vous avez rien compris, de toute façon voilà, vous croyez tous en Jésus parce que vous êtes pauvres. c'était hyper énervé,
c'est une bonne réaction dans la positivité et la bienveillance,
et voilà, donc c'était pas super bien passé, mais je pense que ça lui a fait du bien, ce que je peux comprendre.
Bonjour, c'est Rudy. Je vous récupère dans la post-production de cet épisode, désolé pour cette interruption soudaine, mais on arrive à la fin de cette première partie. Vous l'aurez compris, vu que la thématique était très intéressante et qu'on se doutait bien qu'on pourrait en parler pendant bien plus d'une heure, on tente ici quelque chose de nouveau pour ce podcast, un épisode en deux parties. On s'est permis de changer un peu les choses cette fois-ci car on avait été un peu frustrés lors de certains épisodes précédents de devoir s'arrêter alors qu'on avait encore des tas de choses à dire. Loin de moi l'idée qu'on pourra faire le tour entièrement de cette thématique en deux heures, mais on aura pu prendre un peu plus notre temps et aller un peu plus loin que d'habitude. Oui, mais pourquoi ne pas faire simplement des épisodes plus longs, me demandez-vous ? Là, c'est simplement des raisons techniques d'emploi du temps et de gestion de la plateforme. On trouve simplement que le format d'une heure est le plus intéressant et le plus adapté pour notre podcast. Maintenant, n'hésitez pas à donner votre avis sur le format général du podcast et cette nouvelle idée d'épisodes en deux parties sur nos réseaux sociaux. Et bien sûr, si vous avez apprécié l'épisode, likez, partagez et abonnez-vous. Et surtout, parlez-en autour de vous, ça nous fait toujours un petit coup de pub sympathique. Il ne reste plus qu'à remercier Dena, InnoJP et Raph pour cette première partie, et à vous remercier vous pour l'écoute de cet épisode. On se retrouve très vite pour la suite de cette thématique, ou dans un autre épisode d'À guichet fermé, le podcast des humoristes sans public. Salut !